Philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 15 mai 90.
Pourquoi ce qu'il y a de commun au raisonnement et au jugement oblige-t-il de poser une cause unique? Intelligence unique et non pas deux. Ça, dans l'ordre de la philosophie du vivant, c'est le sem vere qui nous oblige de poser une faculté particulière, une puissance particulière. On se meut dans l'ordre de la vie végétative. Pose là une faculté d'assimilation. On se meut dans l'ordre de la connaissance sensible. On se meut dans l'ordre d'une connaissance particulière qui est spirituelle, dans l'ordre de la pensée. Donc c'est du côté du sem vere qu'il faut bien comprendre le quelque chose de commun. Puisque l'unité de faculté ne peut se comprendre que du côté toujours vital. Et la différence avec le point de vue critique, où on cherche beaucoup plus le point de vue de la signification de l'objet. Ce qu'il y a de commun dans l'ordre du sem vere. Le sem vere, dans ses diverses opérations de connaissance intellectuelle, qu'il s'agisse du jugement, qu'il s'agisse du raisonnement, qu'il s'agisse d'intuition, a ce caractère particulier. Universel, d'impliquer quelque chose d'universel. Je dis bien quelque chose d'universel. Si j'ai dit, je ne sais plus, parce que si j'ai parlé de signification universelle, c'est pas la signification. Le tikoinon ne regarde pas la signification, mais regarde la manière d'exercer l'opération de penser. Universel. Parce que l'universel comme tel est une manière particulière d'opérer. Ça ne regarde pas l'objet. Ça modifie une manière d'exercer la vie. On exerce la vie selon un mode particulier dans toute la vie sensible, dans la connaissance sensible, dans la vie passionnelle, tandis qu'il y a pour manifester ce dépassement du monde sensible, du monde de la vie biologique, une modalité universelle. Liée à un organe sensible à cause de ce mode spécial d'exercice qui lui est au-delà du point de vue particulier et singulier.
Comment est-ce qu'on saisit le mode universel d'exercice? Est-ce qu'on ne le saisit qu'à travers la signification universelle?
Il n'y a pas de signification universelle au sens absolu. Il y a un objet qui peut être universel. de ce mouvement particulier, dit le point de vue de se mouvoir. Le vivant se meut. Oui. Et on reste toujours dans cette perspective du vivant se meut. Mais s'il se meut selon des modalités différentes, dans la vie végétative, il se meut en impliquant immédiatement le corps. L'aliment. Dans la vie de connaissance, il se meut en impliquant un certain dépassement à l'égard du corps, qui est l'apparition, justement, d'une intentionnalité. Et lorsqu'il s'agit de ce troisième degré de vie, il se meut selon une modalité particulière qui n'implique pas directement le point de vue du corps. C'est pour ça que je dis un mode universel. Vous voyez ? Parce que si vous regardez le point de vue de l'objet, vous devriez poser, et c'est là justement ce qu'il y a de tout à fait particulier à la vie de l'esprit, vous devriez poser une puissance distincte pour la philosophie, les mathématiques, les sciences modernes. C'est toujours l'intelligence, cette faculté de connaissance, qui est au-delà de cette diversité. Et en critique, je poserai que cet au-delà se comprend parce que cette intelligence est déterminée par l'être, la ratio mentis. Primo caditi intellectus ens. C'est pas ce primo caditi intellectus ens qui me permet de poser une faculté unique. Ça, c'est la critique. La critique me montre qu'en définitive, toutes mes opérations intellectuelles se ramènent à cette saisie de l'intelligence, à cette saisie de l'être, la ratio mentis. Tandis que du côté de la vie, c'est la manière particulière dont j'opère. Le sémo verré. Toute la philosophie du vivant est commandée par le sémo verré. Et c'est là où on voit que dans la philosophie hegelienne, le sémo verré va commander toute la dialectique. Et ce n'est plus le point de vue de l'objet. La question de l'universel, c'est une manière d'être l'universel. C'est pas une question d'objet. C'est une manière d'être. On existe selon un mode, une opération existe selon un mode particulier qui est au-delà du sensible. Et cet au-delà du sensible va permettre de donner sens à la signification. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces opérations qu'on appelle intellectuelles? C'est justement de se mouvoir selon un mode spécial qui est universel. Je crois que c'est la seule manière pour nous de poser une faculté unique, l'intelligence. Si vous trouvez une autre manière, vous me le direz. Aristote ne fait pas l'induction. Mais on doit la faire aujourd'hui. On doit le faire, on doit préciser. Aristote dit simplement les deux opérations. Il fera bien. Mais précise pas plus. Alors, si on réfléchit sur ce que représente la philosophie du vivant et sur le caractère propre de la philosophie du vivant, on a posé les trois degrés de vie en fonction des trois modalités particulières d'opération vitale, plus ou moins dégagé de la matière. Or, seul l'universel est au-delà de la matière. C'est donc cette modalité particulière d'opérer qui m'oblige de poser le nous séparé de la matière. Mais réfléchissez bien là-dessus. Et si vous voyez une autre manière de poser toujours une forme, soutenue par une forme. Je ne regarde pas la signification. Je regarde quelque chose de plus radical. Je regarde cette forme intentionnelle qui est un mode universel. Toute ma vie intellectuelle a un mode, a une forme intentionnelle sur un mode universel. Plus ou moins explicite. Parce que vous allez me dire du jugement d'existence, mais le jugement d'existence, il implique quelque chose d'universel. Le ceci. Ce sera en critique que je préciserai exactement ce que c'est que l'intellect. enfants d'Abraham, les enfants de Jacob et Jacob lui-même. Ils sont tous. C'est l'œcuménisme du vivant. Il mange. Il boit. L'œcuménisme par le bas. Tandis que l'œcuménisme divin est par le haut. C'est la finalité. C'est ça la difficulté. Il faut bien comprendre que lorsque je pense, je me meus. Et je pose cette faculté vitale qui se meut. Et qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la matière. Or, le quelque chose qui est au-delà de la matière, je le saisis à travers cette forme intentionnelle universelle. Voilà le petit signe qui montre bien qu'il y a une faculté, une, au-delà de la matière. Bon, ça c'est la première chose, très importante. Et c'est par le sémovéré. Vous voyez bien la ligne par laquelle je le pose, c'est le sémovéré. Le sémovéré de ma vie intellectuelle. Ensuite, je vais essayer de voir, étant donné l'ampleur de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle a une extension quasi infinie. Et je comprends, du reste, si justement c'est le domaine de l'universel. L'universel n'a pas de limite. Tout peut être vu sous point de vue universel. Et donc ça n'a pas de limite. Je peux tout saisir. Ça, c'est important. Mais alors, y a-t-il une structure? Ou est-ce que je me perds dans l'infini? Eh bien, il y a une structure, puisque c'est vital. La vie est toujours organique, est toujours ordonnée. Un organisme qui n'est pas l'organisme biologique, qui est un autre organisme. Alors, est-ce qu'il y a une structure? Je crois que c'est la seconde question qu'il faut se poser au point de vue philosophie du vivant. Alors je vois tout de suite, ça tout de suite, qu'il y a deux grands aspects de ma vie intellectuelle. Le point de vue du raisonnement, les multiplicités de raisonnement, induction, déduction, démonstration a posteriori, toute une quantité de choses. Une attitude réductive. Il y a des raisonnements. Et c'est les raisonnements qui prennent le plus de place. Raisonnement, une extension extraordinaire. Des raisonnements qui sont du reste nécessaires, des raisonnements qui sont dialectiques, qui relèvent de l'opinion, qui sont probables. Aucune grande certitude. Et pour avoir des certitudes, ils sont obligés de faire appel au côté affectif. C'est très très nombreux les raisonnements, c'est très divers. Mais c'est toujours des raisonnements. Il y a une structure de l'esprit qui apparaît comme le point de vue du raisonnement. Ça, on ne peut pas le nier, on a tous évidence. Vous avez raisonné une fois dans votre vie. Et dès que vous discutez, vous raisonnez. Les discussions en récréation. C'est de la philosophie parce qu'on raisonne. Non. Tout homme bien fait raisonne. Quand il raisonne très bien, il est philosophe et il est dans la logique. Quand il philosophe mal, il fait des erreurs. Il passe d'un genre à l'autre et puis il raisonne. Et alors il y en a toujours un dans la discussion qui raisonne bien et qui dit oh non, vous n'exagérez pas. Tu passes d'un genre à l'autre, c'est pas juste. Ton raisonnement ne vaut rien. Il n'y a rien de tel pour vous mettre en colère. Il y a les raisonnements. Et on voit que ces raisonnements sont très multiples. Et puis, il y a le discernement. Très souvent critique. Je discerne, je juge. Donc, deux activités très différentes. Deux structures très, très différentes. à soi-même qu'on est capable, à partir de n'importe quelle donnée, en trouver une autre. Il y a une certaine fécondité dans le raisonnement. Une fécondité à l'intérieur de ma vie intellectuelle. Je me meurs. Je suis assez autonome. Je découvre des choses nouvelles dans cet ordre d'extension. Il y a une croissance prodigieuse de ma vie intellectuelle dans les raisonnements. Et ceci, je le fais tout simplement par une sorte de méditation, de réflexion. Et plus cette réflexion est intense, plus je suis capable de me voir. Il y a un caractère très particulier de ce développement de ma vie intellectuelle qui sont les raisonnements. Je préciserai ensuite la diversité de ces raisonnements pour voir comment ma vie intellectuelle se développe. Et je conçois qu'il y a un développement de ma vie intellectuelle qui est comme ça. Et qui m'est très comme naturel. Très, très comme naturel. Et puis il y a autre chose qui est un discernement. Je discerne en disant ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Je porte là quelque chose de très particulier. Je suis capable, dans ma vie intellectuelle, de discerner le vrai et le faux. Et ça, c'est au-delà du raisonnement. Je suis un autre ordre. Je discerne. Juger, c'est discerner. Et que toujours, quand je saisis la vérité, c'est toujours dans un jugement, c'est pas dans un raisonnement, en premier lieu. Les raisonnements seront vrais en fonction de mes jugements. Parce que si je prends un jugement juste et un jugement boiteux, et que je les mets ensemble, le tout sera corrompu. Vous ne pouvez pas raisonner vrai avec une jambe droite et une jambe courbe. Impossible. Il faut que les deux soient vrais. Donc, là, je découvre un domaine très particulier, beaucoup plus qualitatif. C'est beaucoup plus proche de la vie de l'intelligence, de discerner. J'aurais même un certain mépris vis-à-vis de celui qui raisonne indéfiniment et qui ne sait jamais discerner. Je verrai la qualité d'une intelligence en son discernement. Pas dans ses raisonnements. Dans ses raisonnements, je dirais que c'est très bien. Il raisonne beaucoup. Il y a une fécondité prodigieuse dans ses raisonnements, mais on ne sait jamais si c'est juste ou c'est pas juste. Tandis que ça veut dire à celui-là, c'est merveilleux. Chaque fois qu'il raisonne, c'est juste. Et je verrai que dans mes raisonnements, il peut y avoir toute une part imaginative. L'imagination déborde. Permet des raisonnements extraordinaires dans l'ordre des possibles et des impossibles. Tandis que discerner, pas d'imagination du tout. Là, vraiment, c'est là où je vois le dépassement de ma vie spirituelle par rapport à l'imagination. Je suis capable de poser quelque chose et de dire ceci est vrai. Ceci est faux. Je qualifie mon jugement de vrai. Je qualifie mon raisonnement de faux. Je peux qualifier mon raisonnement de vrai et de faux en fonction du jugement. Et donc, il y a un ordre entre les deux. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif et qui me fait comprendre ce qu'est vraiment ma vie spirituelle, ma vie intellectuelle. Et quelque chose qui en est un peu l'alentour, tout le milieu, je raisonne constamment. Et en effet, je dois raisonner pour avancer. Mais je ne peux vraiment dire que c'est quelque chose de positif que quand j'ai posé. Je crois que c'est les deux grandes structures de ma vie intellectuelle. Est-ce que ces deux structures n'obligent-elles pas de poser de facultés ? Je reviens au problème précédent. c'est non. Eh bien, je dis non. Parce que justement, ces deux structures sont toujours emboîtées l'une dans l'autre. Tout raisonnement présuppose des jugements. Et tout jugement, pour croire, implique des raisonnements. Et il y a le quelque chose de commun, c'est que tous les deux sont au niveau universel. Des deux côtés, je me meus. Je crois que ça, on peut tous saisir ça. Les deux grandes structures. Mais c'est intéressant de voir que ces deux grandes structures ne sont plus respectées dans un mouvement dialectique. Pourquoi? Parce que le sémo verré l'emporte sur tout le reste. Et que le sémo verré est manifeste plus profondément dans les raisonnements. Alors, si le sémo verré commande toute ma vie intellectuelle, donc il y a quelque chose d'autre qui commande ma vie intellectuelle et qui m'est donné dans le jugement. Et je me pose la question. Je vois que tous mes raisonnements dépendent de mes jugements et que le jugement est donc quelque chose de plus radical et plus fondamental. Mais d'autre part, je vois que le sémo verré est plus explicite dans les raisonnements. Il faut donc découvrir le quelque chose de plus fondamental dans ma vie intellectuelle que le sémo verré et qui caractérise d'une manière très particulière cette vie intellectuelle et qui m'est donnée dans le jugement. Vous voyez, je reste en philosophie du vivant. Alors, je me pose la question. Qu'est-ce qui me permet de dire ceci est vrai, ceci est faux? C'est pas le sémo verré. Du côté du sémo verré, on peut dire qu'on raisonne plus rapidement, ou moins rapidement. Mais qu'est-ce qui me permet de dire ceci est vrai, ceci est faux? Alors là, vraiment, je découvre ce qui caractérise ma vie intellectuelle. C'est que ma vie intellectuelle est capable de dire ceci est vrai, ceci est faux. Et je peux dire que ceci est vrai, ceci est faux, en tant que j'ai découvert dans ma vie intellectuelle quelque chose qui est premier. Vers quoi je me réfère? Oui, je creuse au point de vue de la vie. Je saisis quelque chose qui s'impose à moi. Et en référence à quoi je peux dire ceci est vrai, c'est-à-dire ceci est conforme à quelque chose qui est antérieur à ma vie intellectuelle. Mais cependant que je saisis dans ma vie intellectuelle, mais quelque chose qui s'impose à moi. Et ce quelque chose qui s'impose à moi, ce sera la réalité que j'atteins dans ma vie intellectuelle et qui est antérieure à ma vie intellectuelle. Cette réalité que je saisis et vers laquelle je me réfère. Et ceci est saisi dans le jugement. Voilà ce que c'est que juger. Juger, c'est être capable de dépasser l'intentionnalité. Alors que dans le raisonnement, je demeure dans l'intentionnalité. Chose que je saisis comme antérieure à l'intentionnalité. Et donc je vois que ma vie intellectuelle ceci de très particulier, c'est qu'elle est au-delà du monde physique, du monde sensible, que d'une certaine manière, elle est indépendante de ce monde. Et pourtant, je me réfère toujours à la réalité existante. Dépasse, sous un certain aspect, ma vie intellectuelle. Puisque je me réfère à elle pour dire ceci est vrai. Et comme c'est curieuse, hein, c'est là où je vois la complexité de ma vie intellectuelle. C'est qu'au fond, elle est au-delà du monde sensible, du monde physique, du monde biologique. Et cependant, elle se réfère à ce monde. Je vois donc apparaître à l'intérieur de ma vie intellectuelle deux aspects. Un aspect d'intentionnalité, de forme intentionnelle, qui est un mode universel. Et un au-delà de l'universel, qui se réfère à la réalité existante, saisie par le jugement. Et je vois que si je refuse ce dépassement, je demeure uniquement dans le se mauvais ré de l'intentionnalité. J'ai une pensée dialectique. Le dépassement de la pensée dialectique, c'est reconnaître le jugement dans sa valeur propre, qui me permet de dire ceci est vrai. Et donc, de comprendre que la forme intentionnelle ce mode universel se fonde sur quelque chose de plus radical qu'est la réalité existante. Je saisis dans le jugement. Vous voyez, je saisis par là deux aspects de ma vie intellectuelle. À la fois sa prodigieuse vitalité et sa prodigieuse réceptivité. Sa prodigieuse vitalité, c'est qu'elle peut s'étendre à tout. Il n'y a pas de limite dans la forme intentionnelle du se mauvais ré, puisqu'elle est universelle. La limite que je saisis de ma vie intellectuelle, c'est la réalité existante antérieure à ma vie intellectuelle. Et j'assiste dans le jugement. Là, voyez, comme c'est curieux, si j'étais parti du jugement, je n'aurais pas pu saisir le c'est mauvais. Donc cette vitalité prodigieuse de l'intelligence qui peut s'étendre à tout. Je serais resté fixé sur ou le premier génétique ou le premier solaire de nature. Ce serait l'ontologisme des deux côtés. Alors que non, l'intelligence a en elle-même une vitalité propre. Ceci est vrai. C'est mauvais.